Bienvenue ce matin à l'EPI et je vous souhaite vraiment de tout cœur un bon temps de Noël, un Noël paisible. Nous le vivons diversement les uns et les autres avec parfois des situations de maladie, de difficultés diverses et variées, mais nous voulons vivre surtout la présence de Dieu et sa paix. Je vous souhaite vraiment sa paix de tout cœur. Saluez également tous ceux qui nous regardent en différé, toute la francophonie. Vous savez que quelquefois nous sommes écoutés en Afrique, et dans les Antilles, un peu partout, alors que Dieu bénisse tous nos auditeurs, et là où vous trouvez, eh bien, que la paix de Christ soit votre partage. Je voulais ce matin vous parler de l'adoration des mages. Nous avons chanté quelques chants d'adoration, et nous voulons, dans cette fidélité, nous tourner vers la parole de Dieu ce matin, jeter un regard sur le parcours des mages qui sont venus adorer Jésus. Ce temps de Noël rappelle bien sûr la venue de Jésus-Christ et tous les chrétiens du monde entier sont unis pour louer, célébrer ce temps de fête, mais aussi adorer celui qui est devenu leur sauveur et leur Seigneur. Les mages sont souvent associés au récit de Noël. En réalité, ils sont arrivés dans la maison de Joseph et de Marie 2 ans après la naissance de Christ, et certainement pas un 25 décembre, mais peu importe, ce n'est pas tant la date qui est importante, mais surtout le fait de sa venue. L'essentiel, c'est que Jésus soit venu pour nous sauver, et probablement que c'était aux alentours du printemps, puisque les bergers se tenaient à l'extérieur, dans les champs, c'est ce qu'on pense, mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est surtout dans le fait qu'il soit venu pour nous sauver, nous réconcilier avec Dieu notre Père, faire de nous ses enfants, et une grande famille de par le monde. Les mages sont pour nous un exemple d'adorateurs, et qui vont nous faire entrer dans la véritable nature de l'adoration. Je vous propose tout de suite un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, et à partir du verset 1er, Matthieu, chapitre 2, verset 1er, si vous avez votre Bible à portée de main, ou votre smartphone, vous pouvez suivre, sinon je vous invite simplement à écouter. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est à partir de là qu'on se fait des cadeaux en souvenir. D'abord, de ce plus grand cadeau que Dieu a fait aux hommes, son propre Fils, mais aussi de ces cadeaux qu'ont fait les mages. D'abord, ces mages, ce sont des hommes qui ont une révélation, la première chose, et deuxièmement, ce sont des hommes qui vont venir offrir leur adoration. Et ces hommes, ces mages, parlent à l'Église d'aujourd'hui, parce que l'Église a besoin de révélation, de vision. Par exemple, le texte des Proverbes dira, Proverbes 29, verset 18, « Faute de révélation, faute de vision, le peuple est sans foi. » On a besoin d'un cap dans notre vie, on a besoin de direction. Et cette étoile leur montre la direction. Et puis, deuxièmement, l'Église a besoin d'offrir son adoration à Dieu. Et nous sommes reconnaissants à des groupes comme Hillsong, par exemple, qui bénissent le monde entier avec sans cesse de nouveaux chants. Des chants d'adoration. Je crois que Dieu a donné une onction particulière à Hillsong qui se trouve en Australie pour bénir le monde entier. Nous traduisons ces chants. Et d'autres, bien sûr, parmi nous, écrivent aussi des chants, mais ont besoin de redécouvrir la profondeur, la dynamique de l'adoration. Alors, à propos de ces mages, l'Évangile ne nous dit rien sur leur nombre. On suppose qu'ils étaient trois à cause de leur cadeau, l'or, l'encens et l'huile. On suppose, mais rien ne dit qu'ils étaient trois. On ne connaît pas non plus leur nom. La tradition, qui remonte au VIe siècle après Jésus-Christ, nous dit que ces trois s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar. Ça, c'est la tradition, mais rien n'est dit dans la parole. Et puis, ces mages ne sont pas forcément des rois, mais surtout des hommes reconnus pour leur sagesse. Ce sont des gens très instruits dans des domaines assez variés comme la science, l'astronomie, l'histoire, la culture biblique. On apprend par exemple par le livre de Daniel dans l'Ancien Testament que les mages faisaient partie des personnes les plus influentes de la société persane. Et ce qui est remarquable, c'est que l'Évangile et la foi traversent toutes les couches de la société. Le plus pauvre peut accéder à l'Évangile et le plus riche ou le plus instruit, tous ont accès à l'Évangile. La foi est accessible à tout homme, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses origines. Dieu ne fait exception de personne parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, puisqu'on parle des mages, au 5e siècle, les Juifs avaient été déplacés d'Israël en Babylonie. Et ils avaient été emmenés en captivité à Babylone. À l'époque du Néhémie et des Esdras, le peuple est revenu, une grande partie du peuple, certains sont restés à Babylone. Et par exemple, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 9, nous parle du jour de la Pentecôte et nous dit, nous rapporte qu'il y avait une communauté juive en Mésopotamie, l'actuel Irak et l'Iran, et cette communauté juive avait des synagogues dans lesquelles on enseignait la Torah, les cinq livres de Moïse, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Et les mages avaient accès à ces enseignements, ces écrits bibliques, avaient aiguisé leur curiosité. Et c'est ainsi qu'on voit aussi le principe de la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Après ce temps de curiosité, ils sont allés plus loin et cette parole a développé chez eux une véritable soif. Quelqu'un l'autre jour me disait, mais comment je fais pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur? Je dis, mais je pense que c'est surtout l'amour de la vérité qui vous conduit à la curiosité, qui vous conduit à écouter la parole, à la lire, à prendre au sérieux, puis cette parole va développer en vous une soif de connaître Dieu. Et si c'est le cas, vous êtes déjà en train de vous convertir. C'est parfois très très simple, parfois c'est très très brutal, comme l'apôtre Paul qui tout d'un coup a une révélation, mais souvent, c'est comme un cheminement. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore dans une relation personnelle avec le Seigneur, je vous encourage à connaître le Seigneur. à le connaître lui. Il vaut la peine d'être connu, devenir son disciple, puis devenir aussi un adorateur de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Qu'on vous soit ce matin, soif de la présence de Dieu, soif d'être en relation avec lui, parce qu'un chrétien évangélique, c'est quelqu'un qui développe une relation personnelle avec le Seigneur. Il y a la dimension collective, bien sûr, mais il y a aussi une dimension personnelle. Chacun est invité à connaître le Seigneur personnellement, à lui remettre sa vie, à lui faire confiance pour le pardon de ses péchés et pour vivre personnellement la paix de Dieu. C'est quelque chose qui est remarquable, mais qui est accessible. Donc, ces mages ont une révélation. Alors, il n'y a eu ni communiqué, ni annonce pour les informer de cette naissance royale. Marie et Joseph sont montés à Bethléem, c'est ce que dit le récit. Jésus est né dans une sorte d'auberge, un caravansérail, au milieu de la plaine, dans une crèche. Et ce n'est que 2 ans plus tard que Marie et Joseph se retrouvent dans une maison, et c'est à ce moment-là que les mages viennent vers eux. Ces mages connaissent les textes bibliques. Notre frère Freddy Frey nous a lu un extrait de ce texte biblique dans le prophète Isaïe. Il y a par exemple Nombre 24-17 qui fait allusion à une étoile et à un roi qui doit paraître. Un astre sort de Jacob, dit Nombre 24. Un sceptre s'élève d'Israël. Nous sommes au 12e siècle avant Jésus-Christ. Et ça me permet de dire que la Bible est un livre absolument unique. Aucun autre livre ne contient des prophéties de cette nature et de cette précision pour préparer la venue de Jésus-Christ. C'est tout à fait exceptionnel et c'est unique. Et puis, Michée, chapitre 5, verset 1er, nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, on l'a lu tout à l'heure, Ephrata, toi qui es petit parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui pètera ou qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps lointain passé. À l'évidence, c'est une révélation que ces mages ont de la part du Seigneur, une révélation directe. Les mages ont vu son étoile. Ils n'ont pas vu n'importe quelle étoile. Il y a beaucoup de mystères autour de cette étoile, mais son apparition est suffisamment persuasive pour les pousser à entreprendre ce long voyage. Ces hommes ont une révélation. Une révélation, c'est lorsque Dieu dévoile quelque chose qui est caché. Et nous avons besoin de révélation. Le fait de connaître Dieu, c'est aussi une révélation. Tout d'un coup, Dieu se montre, Dieu se manifeste à nous de façon personnelle, puisqu'il nous connaît chacun. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous encourage. Dans la prière, dans la simplicité, à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qui tu es, montre-moi comment tu es, parle-moi, conduis-moi, dirige-moi, aide-moi, et Dieu le fera. La Bible dit cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Et nous ne sommes pas une élite, mais chacun et chacune est invité à connaître le Seigneur. Du reste, toute la Bible est une révélation. Toute la Bible. Il y a même un livre dans la Bible qui s'appelle Révélation. C'est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le nom grec, Apocalypsis, qui veut dire révélation. Et ce livre nous donne révélation de Jésus-Christ. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, on nous dit ceci, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Dieu se révèle en Jésus-Christ, Dieu se montre. Dieu a toujours voulu, disait quelqu'un, devenir homme, et l'homme a toujours voulu devenir Dieu. Merci, parce que le Seigneur s'est fait homme. la curiosité se transforme en soif de connaître Dieu, et cette soif les a mis en route et les a conduits jusque Bethléem. Les mages offrent leur adoration. C'est donc ce deuxième aspect sur lequel j'aimerais insister. Alors, on entre là dans ce qu'est vraiment la véritable adoration. D'abord, ils viennent de loin. C'est un voyage qui fait 1000 kilomètres. C'est impressionnant. Un périple de 1000 kilomètres qui fait de Bagdad jusqu'à Jérusalem, hein, par exemple, ça fait à peu près 1000 kilomètres. Ils viennent dans l'intention d'adorer. C'est le but de leur voyage. Mes amis, ce matin, nous sommes venus pour adorer. C'est le but de notre rassemblement. Et nous l'avons chanté. Et nous avons prié. Et nous sommes approchés de Dieu. Et le peuple chrétien, c'est un peuple d'adorateurs. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Par l'esprit, c'est-à-dire ça vient de loin, ça vient du plus profond de nous. Ils sont venus de loin. Et l'adoration, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes. Nous adorons le Seigneur. Quand on pense à la distance, quand on pense à la fatigue, quand on pense à la chaleur, à la poussière, aux conditions de voyage de cette époque, je me dis qu'il paie le prix. Il paie le prix. Et la véritable adoration, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. L'adoration est un sacrifice. C'est le sacrifice de notre vie tout entière. On ne peut pas être chrétien juste un petit bout. Mais c'est tout qui change notre vie. Donnant notre vie au Seigneur, il vient en nous par son esprit, il change notre vie, il nous donne une vie nouvelle. Toute notre vie est chamboulée, elle est changée en mieux, en bien, et nous le louons, nous l'adorons de tout notre cœur. Quand je pense à l'adorateur, je pense au père de la foi, il s'appelle Abraham. Et l'une des caractéristiques de cet homme, Abraham, le père des croyants, c'est qu'il dit à Dieu, me voici. Et j'ai le sentiment très fort que la véritable adoration, c'est dire à Dieu, me voici. Me voici. Je ne sais pas ce que tu attends dans le monde, je ne sais pas comment tu vas me connaître, mais me voici. C'est fort, hein? Me voici. David aussi était un adorateur. Il a écrit des dizaines de cantiques et des psaumes. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 24, il bâtit un autel. Comme ça se faisait souvent à cette époque-là, on bâtissait un autel avec des pierres, puis on y mettait un animal en sacrifice, parce que c'était de cette manière-là que Dieu souhaitait adorer. Donc ça se pratiquait. Donc pour offrir un sacrifice, il bâtit un autel. Et puis un homme qui s'appelle Ornan lui offre du bois, du bétail, des céréales, gratuitement. Tiens, tu peux adorer ton Dieu? Et David dira, en cette phrase, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. C'est fort. Oui, parce que la véritable adoration, le vrai culte, il n'est pas gratuit. Il nous coûte. Il nous coûte. C'est ce qui fait dire à la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre aux Hébreux dira, chapitre 13, verset 15, par Jésus offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesser, c'est reconnaître son nom, mais pas seulement d'une manière générale, mais reconnaître pour moi, dans ma vie, je reconnais que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Confesser, c'est aussi proclamer, c'est aussi rendre témoignage. C'est mon témoignage, c'est une foi qui reflète la réalité de la grandeur de mon Seigneur. Mais adorer, c'est plus fort encore que la louange. La louange, c'est ainsi qu'on est l'ange du Seigneur, mais l'adoration va plus loin. Toujours au chapitre 13, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Faire du bien, être généreux. Parce que quand on fait plaisir à Dieu, on l'adore. On l'adore. L'adoration, ce n'est pas seulement des mots, sont des gestes concrets, pratiques. Alors les mages surmontent les obstacles. C'est quand même bizarre, cette étoile apparaît, disparaît, réapparaît, et il me semble qu'ils ont dû s'interroger. Est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Mais ça me parle moi aussi aujourd'hui. Ça vous est jamais arrivé de vous demander est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que j'ai bien fait de suivre Jésus-Christ? Est-ce que j'ai bien fait de lui remettre ma vie? Est-ce que j'ai bien fait de faire telle et telle chose? Seigneur, parle-moi, montre-moi, guide-moi. Ça, c'est le souci du chrétien. Et sa foi n'est pas une ligne droite, mais sa foi est parfois un peu en dents de scie, avec des doutes, avec des peurs, avec des craintes, avec des interrogations. C'est normal. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que je suis un chrétien dans mon vie? Tu es un chrétien, tout à fait normal. Un chrétien a ses périodes de doute, a ses questionnements, a aussi ses périodes d'incompréhension. Parce que nous restons des hommes, avec nos fragilités et nos vulnérabilités. Moi, je crois en la victoire de Jésus-Christ. Il est vainqueur, il est Seigneur. Il a triomphé du mal, du péché, de la mort, de l'adversaire. Il est vainqueur. Mais je crois aussi à ma propre vulnérabilité. Je suis fragile. Je ne suis pas tout puissant et je ne suis pas à la place de Dieu. Mais je fais confiance au Seigneur. Alors cette adoration, quelquefois, elle est un petit peu bousculée. J'étais en train de repousser en préparant ce message pour vous ce matin à la période où j'étais un peu en interrogation. Il y a quelque temps, je conduisais mon épouse aux urgences. Elle était à l'arrière de la voiture. Elle a fait un malaise cardiaque et je ne savais pas si elle allait s'en sortir ou pas. Et intérieurement, quand nous vivons des moments difficiles, on se pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se terminer? Mais j'ai décidé que dans mon cœur, ça ne changera rien à notre relation, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, tu m'as donné l'épouse, je suis profondément reconnaissant, mais quelles que soient les circonstances de ma vie, je suis ton adorateur, je suis ton enfant. C'est difficile. C'est difficile. Parfois, mais ça coûte. Parfois d'offrir, c'est vrai. On le chante avec ce fameux chant, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Ton job a tout perdu. C'est quand même impressionnant. C'est une image forte d'un adorateur. C'est pas seulement « Seigneur, je te donne, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ça, ce sont des actes, c'est un positionnement, c'est fort, c'est fort. Et puis, adorer sans avoir toutes les réponses, Abraham est parti sans savoir où il allait. C'est quand même impressionnant. Les mages se sont mis en route sans connaître tous les détails de leur itinéraire. Ils sont partis par la foi, sans même savoir. Et là, il y a quelque chose de succulent avec cette femme, c'est l'épouse d'Abraham. Et on sait que lorsque les visiteurs sont arrivés pour dire à Sarah, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, elle arrive, elle s'est dit quand même, à 90 ans. Enfin, c'est pas sérieux. 90 ans. Et puis, les visiteurs lui disent, y a-t-il rien qui soit impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Et on est encouragé là dans notre foi. Et puis, Sarah n'a pas vraiment prêté attention. Mais l'année d'après, elle a été enceinte. Et lorsqu'on lit son expérience et son témoignage dans Hébreux chapitre 11, verset 11, elle figure parmi la galerie de portraits des hommes et des femmes de foi, on nous dit ceci, C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voyez, Dieu a un tout autre regard sur cette femme que nous lorsqu'il réécrit son histoire. L'histoire de Sarah, revisitée par Dieu. Alors j'ai envie de nous poser la question ce matin, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour adorer le Seigneur? Ces mages, ils suivent les traces d'Abraham, qui, comme eux, avait quitté la Mésopotamie pour se rendre dans la terre promise. Et quand Abraham a fait ce trajet, on dit dans Genèse 22, le troisième jour, Abraham leva les yeux. Il vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-haut pour adorer. Jusque là-haut, c'est quelque chose qui m'a frappé. Nous irons jusque là-haut. Il est parti sur le mont Morija, où il devait offrir son fils en sacrifice, et on sait qu'au dernier moment, Dieu l'a arrêté. Mais parce que Abraham sortait d'un contexte où ces choses se pratiquaient. Hein? Donc, c'était sa religion au préalable. Mais il est sorti de là et il voulait voir cette première chose pour le Seigneur. Peut-être qu'il s'était attaché à son fils Isaac et Dieu lui demande et le retient de l'amour. Non, il y a quelque chose qui nous frappe ici. Deux fois, le Seigneur lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Un adorateur, c'est quelqu'un qui donne au Seigneur ce qu'il a besoin. Il ne refuse rien à Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils. Est-ce que nous serions peut-être en train de refuser quelque chose à Dieu? Savez-vous que nous pouvons frustrer Dieu? Nous pouvons le frustrer. Malachie 3 dit, un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous le frustrez. Et vous dites, en quoi avons-nous frustré? C'est sur la dîme et les prélèvements. Verset 9, vous êtes frappé. Vous me frustrez, la nation toute entière. Alors, bien sûr, ici, Dieu exprime son indignation, sa frustration par rapport aux offrandes. Mais nous pouvons frustrer Dieu de bien des manières. Un manque de disponibilité, un manque de temps avec lui, un manque d'écoute, un manque d'ouverture à sa direction. Bref, l'adoration, c'est plus que des mots. Ce sont des actes. Les mages sont allés jusqu'à Bethléem, jusqu'à la maison, jusqu'à Jésus-Christ. Ils sont allés jusqu'au bout. Vous connaissez ce cantique qui nous dit jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi, pour mourir libre, à toi Jésus, pour toujours. Une des sportives, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Les mages se prosternent, s'inclinent, et cette posture montre qu'ils avaient une haute opinion de Jésus. Une haute opinion. Et je crois, frères et sœurs, que notre adoration sera toujours proportionnelle à l'idée que nous nous faisons de Jésus. Proportionnelle. Si pour nous Jésus est grand, si pour nous Dieu est grand, notre adoration sera en conséquence. Et si nous adorons le petit Jésus, ça n'ira pas très loin. C'est vrai qu'il a été petit au moment donné, mais il a grandi, et aujourd'hui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui vit éternellement. Il est celui qui revient bientôt. Il va venir chercher son Église. Mais dans l'attaque d'âme, il cherche à ce que le plus grand nombre encore puisse le connaître, être sauvé. Les mages se prosternent, s'inclinent, sont pour nous vraiment un exemple de l'adoration. Ils offrent de l'or, ils offrent de l'encens, ils offrent de la mire. Je termine par cette pensée. L'or, c'est ce métal précieux qu'on offrait au roi. Et ça signifie pour eux que Jésus est leur roi. Ce matin, je vous dis, est-il vraiment mon roi? Alors, le vocabulaire semble un petit peu décalé par rapport à notre ère moderne, mais vous pouvez prendre le terme de président, par exemple. Est-il mon président? Préside-t-il dans ma vie? Il reconnaît Jésus comme roi. Ils offrent de l'encens. L'encens provient d'une résine, d'un arbre qui a été incisé. C'est une blessure qu'on fait dans l'écorce de l'arbre. Elle se présente sous forme de larmes. Et l'encens accompagne la prière et les offrandes faites à Dieu. Ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et ils offrent de la mire. Celle-ci, c'est une résine odorante. Symbolise les souffrances et la mort de Jésus. On se servait de la mire pour embaumer les morts, et dans Jean 19, Jésus a été embaumé avec des aromates, dont notamment la mire, symbole de mort, symbole du sacrifice de Jésus la croix. C'est comme si, au moment où ils offrent cela, déjà, ils signalaient de la venue de Jésus, il allait mourir sur la croix, pour toi, pour moi, pour nous, afin de sauver nos péchés. Ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Sauveur. Alors j'ai envie de louer et d'adorer le Seigneur avec vous ce matin en terminant cette méditation et de dire avec vous toute ma reconnaissance. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour l'image de l'adoration de ces mages. Merci pour leur exemple. Ils sont pour nous un modèle. Ils viennent de loin. Nous aussi, Seigneur, pour certains d'entre nous, nous revenons de très loin. Mais aussi cette adoration, nous voulons te l'offrir du plus profond de nous-mêmes. Tu es digne de recevoir. Non seulement des mots, des phrases, des paroles, du vocabulaire, mais toute notre vie. Merci. Tu n'as rien retenu. Tu as donné toute ta vie en sacrifice pour nous. Et nous aussi, nous voulons te remettre notre vie. Et en ce jour de Noël, jour de fête, nous voulons aussi que dans le ciel, il y ait la fête à cause du peuple qui te loue, qui te célèbre et qui t'adore de tout son cœur. Merci, Seigneur, de nous avoir tellement aimés. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que celui qui croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous t'adorons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'aimons, nous l'avons chanté tout à l'heure, et nous te le redisons. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de pouvoir être ces adorateurs, adoratrices.